Vous découvrez le monde de la bourse et du trading, certaines personnes peuvent vous aider. J'en connais et je les ai invités à partager leurs connaissances avec vous. Je suis le Tradosaur et vous écoutez Conversation avec Trado. Mesdames, messieurs, encore un privilège non dissimulé aujourd'hui. Je reçois sans doute le plus connu, le plus médiatique des analystes techniques, peut-être avec Nicolas Chéron. Il s'agit de Vincent Gann. Salut Vincent.
Salut Ilan, bonjour à tous. Quelle introduction tu viens de me faire. Je ne sais pas si je suis le plus médiatique ou le plus connu, mais en tout cas, merci. Merci pour cette intro. Et puis moi aussi, je suis vraiment ravi que tu m'invites et qu'on puisse parler ensemble ces prochaines minutes.
Et oui, parce qu'effectivement, tu t'en rends pas compte, mais des analyses techniques dans notre milieu à nous, on se connaît tous, mais des analyses techniques qui soient, qui aient une notoriété en dehors de notre petite secte d'analyses techniques, il n'y en a pas tant que ça, je l'ai dit, hein. Il y a sans doute Nicolas Chéron et toi qui êtes sur la même première place, et la plupart des analyses techniques sont complètement inconnues. Donc, c'est un véritable honneur, encore une fois. Et je veux vraiment que ceux qui écouteront ce podcast se rendent compte de la chance qu'ils vont avoir de pouvoir bénéficier de ces ressources. Est-ce que tu veux bien, pendant quelques minutes, nous faire un petit peu les différentes étapes de ton parcours, les étapes que tu juges notables ?
Oui, je vais te répondre à ça. Alors, oui, là, je sais pas si je suis à la première place des analystes, mais en tout cas, voilà, merci pour cette introduction. C'est vrai que c'est un petit milieu. Il y a, pour moi, avant de répondre à ta question, il y a des analystes qui ont une bonne personnalité, que j'apprécie, et bah, toi, typiquement, Ilan, tu en fais partie. C'est pour ça que je suis ravi de faire ce podcast avec toi. Je t'ai toujours apprécié.
Merci infiniment.
Il y a malheureusement, cette industrie est aussi un peu parasitée par les analystes qui, au contraire, alors, soit ne seront pas analystes, n'ont pas l'amour du graphique et sont plutôt attirés par la finance et ses côtés un peu sombres. Il y a toute cette partie-là, mais voilà, moi, j'estime que toi, justement, tu fais partie de ceux qui... La lumière, en tout cas, de cette industrie. Donc voilà, je suis ravi de faire cette émission avec toi. Alors moi, je vais me présenter simplement. J'ai 38 ans. Voilà, je travaille au contact des graphiques depuis un certain temps. En fait, moi, je m'y suis toujours intéressé avant même d'être majeur. À l'époque, c'était des sites comme Boursorama ou Zone Bourse. Je commençais à regarder les graphiques. C'était l'époque des connexions bas débit, des modems 56K, où pour charger une fiche valeur, un graphique, il fallait attendre plusieurs minutes. Bref, j'ai commencé à m'intéresser au marché financier, à l'investissement boursier. C'était aussi mon grand-père, paix à son âme, qui lisait à l'époque la lettre recommandée du revenu et qui chaque semaine me parlait de ses investissements d'actions. J'ai commencé comme ça. Et donc à 18 ans, je me souviens être allé à Boulogne-Billancourt ouvrir mon premier compte-titre chez Boursorama Invest à l'époque. J'avais été reçu, maintenant ça, on n'imagine plus recevoir un gamin de 18 ans, mais à l'époque ça se faisait, c'était tout nouveau. Donc j'ai commencé comme ça en fait, avant même en fait d'en faire mon métier. Alors ensuite j'ai fait un parcours classique, j'ai un master en management, donc j'ai fait après le bac une classe préparatoire, une prépa HEC à Versailles, et puis j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Nantes, de son petit nom Audencia Nantes, donc, voilà un master classique avec une spécialisation en finance d'entreprise. Moi, je commençais comme ça, j'ai commencé par la finance d'entreprise, donc je maîtrise un peu cet aspect-là, l'analyse comptable, la valorisation boursière, c'est des choses, je pense, il faut avoir quand même quelques notions. Mais en fait, très vite, moi, je restais quand même collé à la vie des titres, au graphique, au trading, et j'ai voulu évoluer par ça. Alors, après mon master, j'ai passé le CFT, le diplôme d'analyse technique de l'Association internationale des analyses techniques, l'IFTA, aux États-Unis. En France, son antenne, c'est l'AFAT, donc voilà une petite spécialisation. Voilà pour la partie formation. Ensuite, professionnellement, j'ai fait des stages. Je me souviens d'un stage que j'ai fait chez Zone Bourse. Je remercie Franck Morel pour ça, le patron de Zone Bourse. Un stage que j'ai fait chez Zone Bourse, ça devait être en 2003 ou en 2004, où là, j'ai fait mes premiers pas dans l'approche professionnelle graphique. J'ai rencontré des analystes talentueux à ce moment-là, qui m'ont transmis mes premières connaissances. Et ensuite, une fois diplômé, je me souviens, oui, mon premier contrat de travail, c'était chez Day by Day, une maison d'analyse technique indépendante. Et c'est vraiment là où je suis rentré dans l'analyse technique professionnelle. Et ensuite, donc, ma carrière s'est développée. Alors, moi, je me définirais comme un, je ne sais pas si c'est péjoratif ou pas, c'est une expression, tu sais, le mouton à cinq pattes. Alors, pas mouton en mode soumis, mais je touche un peu à tout parce que je m'intéresse à beaucoup de sujets. Je touche un peu à tout, je dirais, sans être expert de rien non plus. Mais donc, du coup, moi, ma carrière en finance, c'est pas uniquement que les graphiques pour le graphique rester derrière son écran. J'ai travaillé pour des brokers, j'ai géré des services de recherche, j'ai travaillé aussi à la constitution de sites internet, par exemple le portail à l'époque Forex Trading Sat, qui a été depuis racheté par BFM Bourse. J'ai conçu le site Forex Trading Sat. Alors je ne l'ai pas codé, mais j'ai fait tout le cahier des charges, j'ai travaillé avec des informaticiens, ça c'était une super expérience, je m'en souviens. J'ai aussi une expérience en gestion de patrimoine dans le milieu bancaire, où là j'ai, alors courte certes, mais j'ai appris beaucoup de choses sur toute la partie épargne financière, la transmission, la fiscalité, et ça ne cesse d'évoluer. Et ça aussi, c'est important d'avoir des bonnes notions sur ce sujet. Et puis donc, sans rentrer, je ne vais pas détailler toute ma carrière, finalement les gens s'en fichent du CV en détail, mais donc j'ai très longtemps, pendant longtemps, été, pendant une quinzaine d'années, salarié de cette industrie de la finance de marché, finance digitale. Et puis, depuis maintenant, laisse-moi réfléchir, je compte peut-être 2 ans et demi, je suis mon propre chef. Je découvre ce plaisir. Je crois qu'Ilan aussi, tu es ton propre chef, ta propre entreprise.
Tout à fait.
Depuis 2 ans et demi, je découvre ce plaisir d'être complètement libre.
Alors, c'est. Et précaire.
Voilà, il y a des plus et des moins, mais au final, il y a une liberté. Déjà, la première des libertés, c'est d'échapper au petit chef. Le petit chef qui ne devrait pas être chef. Bref.
Vas-y, règle tes comptes, dis ce que tu as à dire.
Non, mais voilà, ça permet d'échapper à ça. Et puis donc, c'est la nouvelle voie que je trace. Voilà où j'en suis. Alors maintenant, pour résumer, si on devait me donner un titre, moi, je reste quand même avant tout attaché au graphique. Donc, je reste avant tout un analyste graphique et un amoureux de la vie des titres. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je peux m'introduire comme ça.
Écoute, c'est parfait, et surtout tu m'as donné la matière qui m'amène à ma deuxième question, qui est la raison principale sans doute pour laquelle je t'ai invité, toi. C'est ce refus constant d'embrasser la guéguerre entre analyse fondamentale et analyse technique. Toi, tu n'as aucun scrupule à assumer le fait que les deux sont solubles dans une analyse globale.
Oui, complètement. Pour le coup, ça ne m'a jamais gêné. Alors, il y a plusieurs éléments pour te répondre. Déjà, même au sein même de l'analyse technique, il y a ce type de clan. Il y a au sein de l'analyse technique, certains systèmes qui prétendent être exclusifs. Il y a, je ne sais pas, les défenseurs, les partisans, ceux qui pratiquent les vagues d'Eliot, les puristes, le basique Eliot, ignorent tous les autres outils d'analyse technique. Les puristes Ishimoku ignorent tous les autres outils. Donc déjà, au sein même de l'analyse technique, il y a ce type de comportement. Alors, si on raisonne de manière plus globale, oui, l'analyse technique, c'est une façon d'appréhender les marchés financiers. L'approche comportementale, je vois pas pourquoi on la dissocierait des fondamentaux. Et puis, soyons honnêtes, moi, je connais un certain nombre de gérants en France. J'ai même au sein de ma famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des personnes qui travaillent dans des hedge funds, par exemple, je peux te garantir que tout le monde regarde les charts, tout le monde regarde les graphiques. Moi, j'ai une anecdote, je me souviens, c'était il y a quelques années, c'était dans l'émission Intégrale Bourse, donc sur BFM, mais qui n'existe plus dans son format de l'époque. Donc sur le plateau, il y avait donc un gérant de je ne sais plus quelle boîte de gestion parisienne. Et moi, donc on parlait de Renault. Il donne son avis fondamental et moi graphique. Donc très bien. Et une fois l'émission terminée, en off, on discute un peu en descendant du bâtiment. Et là, il me parle, il me fait, mais Vincent, vous avez vu, là, on vient de dépasser cette résistance. Et en fait, je comprends qu'il regarde, même ceux qui prétendent ne pas regarder les charts, regardent les charts parce qu'on a compris que ça a un impact très important. Et je pense maintenant, dans les pays anglo-saxons ou en Asie, il n'y a aucun souci. Il y a même des émissions sur CNBC, par exemple, dédiées à l'analyse technique. En Asie, tout le monde regarde les charts. En Europe, en fait, aussi, tout le monde regarde les charts. Mais chez les vieilles maisons de gestion, c'est moins assumé, je dirais. Mais au final, tout le monde les regarde. Donc, pour moi, mettre une barrière, un mur infranchissable entre l'approche fondamentale, les fondamentaux économiques des entreprises, l'analyse technique, et puis d'autres approches, mettre un mur infranchissable entre ces différentes disciplines, en fait, c'est justement aller droit dans le mur ou c'est volontairement se priver d'une information. Alors, je peux le comprendre parce que peut-être qu'à la fin, ça fait trop d'infos et on ne sait plus comment décider. Et je pense que ceux qui font des graphiques et uniquement des graphiques et qui, par principe, excluent les fondamentaux, je pense qu'ils veulent peut-être éviter d'avoir trop d'informations pour ne pas brouiller les pistes. Voilà, donc en tout cas, pour moi, tout ça avance ensemble et je le constate concrètement quand j'ai au téléphone des amis gérants qui n'en regardent que les fondamentaux, à chaque fois lorsqu'on s'appelle, et ils me demandent en fait mon avis graphique. Donc c'est faux de dire, et archi faux, de dire que les gérants, même français, ne regardent pas les charts. Moi, je conclurai en disant qu'ils regardent tous les graphiques.
Ils ont honte de l'avouer, mais c'est vrai. Écoute, Vincent, forcément, ça m'amène à ma troisième question, qui est sans doute une question qui va parler à beaucoup d'auditeurs. Il y a une étape à franchir qui est très difficile pour réussir à articuler le fondamental et le technique. Moi, je me rappelle que lorsque je t'ai connu il y a plusieurs années, c'était à travers notamment une méthode que tu as mise en place qui consiste effectivement à marier dans un process bien établi, bien rigoureux, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et j'aimerais que tu expliques comment on peut simplement, sans être ni un spécialiste de l'analyse fondamentale, ni un spécialiste de l'analyse technique, mais simplement quelqu'un qui aime ces deux aspects, comment on peut, de manière simple, articuler ces deux disciplines et pour en obtenir quelque chose qui dépasse en fait la somme des parties.
Alors, je dirais qu'il faut faire des choix. Effectivement, on ne peut pas tous être spécialistes et fins connaisseurs de l'analyse comptable, de la valorisation boursière. Même au sein même des gérants fondamentaux, ils se spécialisent par secteur. Concrètement, au sein de la gestion d'actifs, il va y avoir un gérant spécialiste du secteur automobile qui va assister à toutes les réunions des entreprises du secteur auto, toutes les annonces de résultats, les conf-calls. Donc on ne peut pas devenir à ce point spécialiste. Non, moi je pense qu'il faut avoir des connaissances générales, s'en tenir à l'essentiel. La meilleure façon de s'informer, parce que bah, forcément c'est difficile d'avoir chez soi un terminal Bloomberg ou un terminal Reuters, c'est sur les sites internet des entreprises, lorsqu'ils publient leurs résultats, tous les 3 mois, 4 fois par an pour les boîtes cotées, de regarder les résumés, les communiqués de presse, ce qui ressort des états financiers qui sont proposés, s'assurer que la boîte n'est pas endettée, qu'elle a des perspectives. Bon, rester comme ça en surface, mais quand même comprendre les états financiers délivrés par les entreprises. Pour la macroéconomie, s'en tenir aux principaux agrégats de conjoncture économique, ceux qu'on peut comprendre aisément, c'est-à-dire ceux qui sont suivis par les banques centrales. Et pour ça, lorsque tu visites un site de banque centrale, notamment par exemple celui de la Réserve fédérale des États-Unis, celui de la Banque centrale européenne, c'est hyper clair. Ces deux banques centrales te disent quels agrégats de conjoncture économique elle surveille l'inflation, le chômage, le PIB et quelques autres agrégats. Ces agrégats, ensuite, on peut les suivre facilement sur le web financier, hein, puisque toutes ces données sont publiques. Et à partir de là, la Banque centrale te dit aussi comment elle les interprète et ses anticipations de politique monétaire. Donc là aussi, sans rentrer en détail dans la politique monétaire, ce sont des éléments de surface faciles à comprendre en étudiant le site des banques centrales. Ça, c'est un accès à l'information facile. Puis l'analyse technique, c'est avant tout déjà de ne pas tout connaître. Ce n'est pas mettre un graphique et mettre 10 indicateurs et puis regarder la direction ou simplement aller sur un forum ou écouter quelqu'un qui te dit d'acheter là. Il faut un peu plus creuser le sujet. Sans tout connaître, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir ce que j'appelle une méthodologie. Méthodologie, c'est quoi? C'est faire son choix. Je choisis comment je représente mon graphique. Je ne sais pas, en bar charts, en cours de clôture, en bougie japonaise, en ce que je veux. Je choisis un ou deux indicateurs de momentum pour représenter la vitesse du marché. Et ce que je choisis, je vais au fond du sujet. Je ne me contente pas d'afficher la courbe, je comprends ce que j'ai sous les yeux. Si je choisis un indicateur technique, je ne sais pas, le RSI par exemple, comme mon RSI vaut 20, je sais ce que ça veut dire 20. dans quelle unité. Donc aller au bout de la compréhension des outils techniques qu'on utilise, quelques-uns, les associer au sein d'une méthodologie, et voilà, ça fera l'affaire. Donc voilà, je dirais que je vois les choses comme ça. L'analyse technique, moi je suis avant tout un chartiste, il faut un peu creuser, il faut aller au bout du sujet. Pour les fondamentaux des entreprises et les fondamentaux macroéconomiques, il faut une connaissance générale, mais pas besoin d'être un expert en analyse financière, un expert en politique monétaire pour s'en sortir.
Ok, c'est parfait. Alors, je vais poser une question que beaucoup de mes invités détestent. C'est la suivante. Tu viens de parler des indicateurs techniques, tu viens de parler des choses qu'il faut garder, qu'il faut savoir trier. Si on te tordait le bras
oh, je sens que je vais détester la question.
Pour ne conserver qu'un seul.
Je déteste déjà, non, je plaisante.
Lequel répond à cette question avant que je te torde le bras? Quel indicateur technique tu garderais s'il fallait en choisir qu'un seul pour passer tous tes trades?
Ah, j'ai pas du tout pensé à une question comme ça, mais là effectivement, j'aurais tendance à vouloir en choisir deux ou trois. Si je devais en choisir qu'un seul pour à la fin passer un trade, juste un seul, un unique. J'hésite
c'est
entre
ça.
Deux ou trois. Je peux les nommer, ceux entre lesquels j'hésite.
Après,
grâce à ta question, je pense que je peux répondre. Alors, j'hésite entre... C'est un système, c'est pas vraiment un indicateur, mais je mettrai Ichimoku. Entre Ichimoku, j'hésite entre Ichimoku et mes deux indicateurs techniques favoris, l'indicateur RSI et la MACD. Alors, maintenant, ta question, c'est... c'était bien précis, c'était pas pour analyser, c'était pour trader. Alors, le RSI et la MACD peuvent, dans certains rares cas, donner par eux-mêmes un signal de trading, mais ça reste quand même assez rare, alors que l'Ichimoku est quand même beaucoup plus complet sur ce plan-là. Donc, s'il faut répondre à ta question, en choisir un, je garderai l'Ichimoku sur mes charts. Voilà.
Comment tu rentres un trade? Comment tu sors d'un trade uniquement avec l'Ichimoku?
Alors, l'Ichimoku déclenche des signaux de trading de plusieurs façons. Là, la réponse, elle peut pas être unique, mais simplement quelques éléments de base. Prenons l'exemple d'une tendance haussière. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent les principales composantes de l'Ichimoku, mais imaginez un marché haussier, donc il faut essayer de le représenter dans sa tête. L'Ichimoku, sur ce graphique haussier, sur ces bougies japonaises qui sont en tendance haussière, va vous afficher ce qu'on appelle le nuage, la Tenkan-sen, Kijun-sen et la Lagging Span. Alors, si le marché haussier, c'est que le prix est au-dessus du nuage. Très bien. Ensuite, le prix donc est en tendance haussière, et puis de temps en temps, il fera une pause, un pullback. Les mouvements de retour, je vais en citer un, voilà, juste un exemple, les mouvements de retour, les tout premiers mouvements de retour sur le Kijun-sen en tendance haussière sont des points d'entrée parfaits à l'achat. Donc ça, c'est une façon de faire, une façon de trader, c'est d'utiliser Kijun-sen en tendance pour attraper pile poil le point de pullback de retracement. C'est le 50% de retracement, en fait, hein, sur les 26 dernières périodes, le Kijun-sen. Ça, c'est une façon de trader avec, alors pour être très concret, sur une plateforme, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'achat à cours limité, ce que tu connais, la plupart des auditeurs doivent connaître, l'ordre en attente, d'exécution, et donc un retour sur ce... Ça, c'est une façon de faire. Après, les meilleurs signaux que donne, par expérience, sur tous les actifs que je suis, l'Ichimoku, reste quand même la sortie du nuage. Moi, j'ai le souvenir... C'était en 2019, premier trimestre 2019, sur le cours du Bitcoin, après 85% de baisse, l'explosion de la bulle spéculative fin 2017, la chute de 20 000 sur les, vers les 4 000, 3 500, 4 000 dollars, un an et demi de chute, et au début de l'année 2019, eh bien, le prix, sans volume, sans rien, repasse pour la première fois en un an au-dessus du nuage. Ce qui définit la tendance en Ichimoku, c'est le prix par rapport au nuage. Il repasse au-dessus du nuage. Il n'y avait aucune info, rien. Eh bien, ça a été le tout premier signal, ensuite, du mini bull run qu'il y a eu cette année-là, en direction des 13 000 dollars. Donc, moi, pour l'Ichimoku, en termes de trading, c'est ce qui vraiment me semble très important. Les mouvements de retour, J'utilise Kijun, mais vraiment les meilleurs signaux, là où on peut déclencher des trades tendanciels et peut-être même les attraper, pas dans tous les cas, il y a plein de conditions, en phase initiale, c'est lorsque le prix traverse le cubo.
Merci Vincent, ça vaut de l'or. Alors du coup, je te libère le bras et je te pose une question plus large. Ça va mieux?
Ça va mieux.
Alors maintenant, tu sais que tu vas parler à également beaucoup de débutants qui se cherchent. Et nous, les vieux, on voit bien qu'il y a trop d'offres, trop d'éléments et ça empêche effectivement les débutants de se concentrer sur ce qui est bon pour eux. Si tu devais conseiller un analyste technique débutant sur un trio ou un quatuor, à ce que tu veux, d'éléments techniques à mettre. Alors tu as effectivement mentionné le RSI, le MACD, tu as mentionné également l'Ishimoku. Est-ce que c'est également ce que tu conseillerais à un novice, à un trader nouveau, à un analyste technique débutant pour entamer son périple en analyse technique?
Alors, si vraiment, donc, je comprends bien ta question, on s'adresse à quelqu'un qui archi débutant, qui découvre.
C'est ça.
D'accord. Alors, moi, je passerai d'abord, je l'inviterai à passer du temps sur l'étape d'avant. C'est comprendre ce qu'il a sous les yeux. Et ça, ça peut prendre du temps et ceux qui arrivent oublient de le faire. L'analyse graphique, visuelle, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça représente des cotations, des prix, en fait, des chiffres sous la forme d'un graphique. C'est visuel. Plutôt qu'avoir la cotation de l'action totale sous la forme d'un tableau avec chaque jour le cours de clôture, ça vient représenter ça sous la forme d'un chart. Et donc, d'un coup, on a l'information sur la tendance. Premier élément, je dirais, comprendre le graphique dans ses fondations. Déjà, l'axe des ordonnées. Ce qui se trouve à droite, l'axe des prix, il y a différentes échelles possibles. Et ça, souvent, on passe à côté, l'échelle arithmétique et l'échelle logarithmique. L'axe du temps, comprendre la représentation graphique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière une bougie japonaise par rapport au cours de clôture, par rapport au Renko, par rapport au bar charts. Et c'est cette simple représentation graphique, entre autres, par exemple, les bougies japonaises, donne des informations sur la tendance, donne même des informations trading. Donc, première étape, comprendre le graphique dans ses fondations et la représentation graphique. Ça me paraît la première chose, avant même de choisir un quelconque indicateur. Ensuite, deuxième étape, et ça aussi, c'est largement bâclé, c'est le chartisme. Le chartisme, pour certains, c'est la partie sorcellerie de l'analyse graphique, mais le chartisme ne doit pas être bâclé. Bien tracer ses supports et ses résistances, bien tracer ses lignes de tendance. Je vois partout, moi, des graphiques avec des lignes de tendance tracées n'importe comment à main levée, uniquement pour correspondre au biais de la personne qui utilise ce graphique pour trader. Non, il y a une... L'analyse chartiste, il faut bien la faire de manière, je dirais, normée, académique, et prendre le temps de bien la faire, sinon elle n'aura aucun effet, ce sera du n'importe quoi. Donc, bien comprendre la représentation graphique et passer du temps sur le chartisme de base. Dans le chartisme de base, je mets aussi les figures chartistes. Voilà, vraiment commencer par ça, commencer par des moyennes mobiles, même si on s'en sert de moins en moins, comprendre leur fonctionnement, les signaux qu'elles peuvent donner, leur direction. Donc, avant même d'ajouter un quelconque indicateur, un débutant, je lui conseillerais ça, et je lui conseillerais aussi de lire c'est un bouquin de John Murphy, j'en parle souvent, c'est l'analyse, il doit s'appeler l'analyse visuelle des marchés financiers, ou un titre comme ça, par John Murphy, le bouquin de base, une centaine de pages, pour commencer sur les toutes bases du chartisme. Donc voilà, pour résumer, mon conseil, entre guillemets, c'est passer du temps et ne sous-estimez pas le chartisme de base, qui est une vraie discipline.
Super, merci Vincent. Ok, alors Vincent, tu as mentionné un livre fondateur de l'analyse technique, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des auteurs qui, à ton sens, ont une renommée qui est difficile à comprendre au regard de ce que sont les marchés et le trading aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des noms, des livres très connus qui sont souvent mentionnés, des techniques qui sont citées, et dont tu trouves que finalement, clairement, ça ne marche pas si bien que ça, et que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement zapper.
Oui, alors, oui, il y a énormément d'outils techniques, d'outils chartistes. Moi, j'ai eu des cycles. Il y a une époque, j'utilisais beaucoup Fibonacci, beaucoup les moyennes mobiles. Et c'est vrai que dans mon analyse, les moyennes mobiles, je les zappe maintenant, pour être honnête, j'utilise beaucoup moins. Mais comme je suis curieux et que je regarde des analyses externes, parfois je tombe sur des analyses qui utilisent les moyennes mobiles, et c'est vrai que ça peut encore générer des signaux, etc. En fait, c'est une question de choix. Il n'y a pas un indicateur meilleur que d'autres. De toute façon, la plupart des indicateurs ne sont pas réellement backtestés. Pour affirmer qu'un outil est plus efficace qu'un autre, il faudrait avoir une approche vraiment scientifique, le backtester sur les données passées, même créer un algorithme pour voir s'il génère des signaux de trading plus efficaces qu'un autre sur les données réelles. Donc au fond, c'est chacun sa façon de voir les choses, chacun ses choix, son utilisation. Ils se valent tous, ils veulent tous représenter la tendance, tous déterminer si la tendance faiblit ou pas. Ensuite, je dirais que plutôt que porter un jugement sur un outil plus qu'un autre, il faut s'interroger soi-même, est-ce que je maîtrise ce que j'utilise? Voilà quelle sera ma réponse à ta question.
Ok Vincent, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ton trading, ok, quel genre de trader es-tu?
Alors, bonne question. Ça, je vais te répondre de plusieurs façons. Alors déjà, beaucoup de monde se prétend trader. Après voilà, on sait pas trader réel, trader. Déjà, être trader, c'est quoi? Il y a les traders pour des institutions, des traders salariés. Voilà, ça, je ne suis pas ce type de trader. Alors, moi, je suis dans la catégorie des traders particuliers qui gèrent leur épargne financière. Ça, c'est ma première réponse. Ensuite, pour moi, le trading dans la gestion de mon épargne financière, c'est une part secondaire, je dirais. Donc je suis déjà un trader qui n'utilise qu'une petite partie de son épargne financier pour le trading. Donc ça aussi, ça resitue les choses. Je ne vis pas des revenus que je dégage du trading. Soyons transparents. Donc au final, moi je ne me définis pas comme un trader. Je ne suis pas trader, c'est faux. Je suis avant tout un analyste technique. Beaucoup, c'est vrai, se prétendent trader pour peut-être aussi attirer le chaland. Moi, je ne suis pas trader. Je suis trader particulier sur une petite partie de mon épargne financière. Alors voilà, j'avance encore dans la réponse. Maintenant, pour être plus précis, quel type de trading je pratique? Je me suis souvent posé la question, dans mon esprit, je me suis toujours considéré comme un swing trader, moyen, court moyen terme, quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'est le type de trade que je cherchais à faire, donc peu de trades, mais des bons points, des gros prix, et puis ensuite laisser la position durer le plus longtemps. Et une fois, je me suis tourné, tu sais, maintenant c'est assez facile d'avoir des statistiques sur son trading pour avoir les faits concrets, au-delà de ce qu'on pense. J'avais regardé récemment les statistiques sur une période bien précise. Et puis il y avait donc plusieurs chiffres, et notamment la durée moyenne de détention d'un trade. Et finalement, il en était ressorti que c'était que quelques jours, parce qu'en fait, très souvent, je coupais la position avant que les objectifs que l'analyste technique me disait de viser soient atteints. Donc moi, je me considère comme, alors ça dépend des classes d'actifs, mais comme avant tout une approche moyen-long terme. Par exemple, sur les cryptos, je fais du hold. Sur les actions, sur le marché d'échange, je pensais avoir aussi cette approche moyen terme, mais dans les faits, plutôt un trader de court terme sur quelques séances, c'est ce que disent mes statistiques. Donc peu d'ordre au final, peu d'ordre, pas du tout un day trader. Voilà quel type de trader je suis pour te répondre, même si, encore une fois, pour conclure, je ne me considère pas comme un trader, je ne suis pas trader, je gère simplement une partie de mon épargne financière avec le trading.
D'accord, bah écoute, ça a au moins le mérite de resituer les choses et de montrer qu'on peut maîtriser parfaitement une sphère, un champ et ne pas vouloir en faire effectivement son revenu principal. Écoute, tu connais sans doute Christophe, alias Trend France.
Oui.
Alors, j'ai une question. J'ai une question qu'il voulait te poser. Allez, je vais te la poser et voilà. Alors,
Mais
c'est
j'ai
une question
jamais.
très
Alors,
précise.
dis-moi, quelle est cette question? Quelle est cette question piège? J'attache ma ceinture.
Non, je dirais pas que c'est une question piège, mais je suis content qu'on te la pose à toi et pas à moi. Donc, écoute bien. La question est la suivante. Lorsque tu décides d'acheter ou de vendre, bref, lorsqu'il va y avoir une décision qui va être prise, à quoi accordes-tu le plus d'importance? Est-ce que ce serait un ensemble d'éléments techniques qui vont te pousser à acheter ou à vendre, hein, ça dépend dans quel sens? Est-ce que c'est plutôt quelque chose non pas de personnel, mais plutôt basé sur des prophéties autoréalisées, tu vas voir quelque chose que tout le monde va voir et qui est susceptible de déclencher un phénomène moutonnier. Qu'est-ce qui te fait essentiellement passer à l'action? Donc, je redis d'une dernière façon différente. Est-ce que ça va plutôt être une espèce de salade savante avec des signaux peut-être même assez personnels? Ou est-ce que ça va plutôt être quelque chose que tout le monde voit parce que tu vas compter sur sur le panurgisme en fait hein, des traders.
Alors, je dois donc répondre simplement une réponse, le timing. Le timing. Pour deux raisons. Déjà, il y a une partie psychologique en trading, il y a la dimension du stress, c'est-à-dire de bien commencer. Si on a une anticipation haussière sur un actif, peu importe l'actif, mais qu'on l'achète n'importe où, on ouvre la position, on se retrouve tout de suite en perte, cette moins-value latente, il faut la gérer. Est-ce qu'on va pouvoir la gérer par rapport à sa marge, si on fait du trading de marge, ou est-ce que si on traite sans marge, on va pouvoir accepter de commencer comme ça en moins-value latente? En fait, peu importe qu'on pense que ça va monter ou ça va baisser, moi, je suis patient. Et ce que j'aime, c'est le timing pour avoir ce confort d'être rentré très proche du support ou de la résistance et d'avoir le reversal immédiat. Donc ça, je pense que c'est important pour ce côté déjà gestion de marge, gestion de l'aspect latent et puis aussi le côté psychologique. Donc voilà, c'est ça pour moi qui compte. Et du coup, ça fait manquer effectivement beaucoup d'opportunités parce que parfois on va pas chercher, on va pas s'approcher de ces points parfaits. On n'a pas de retracement, on n'a rien et on manque la dynamique. Mais peu importe, peu importe. On n'a pas le point, on n'a pas le point. Donc voilà, c'est ça pour moi qui compte. C'est avec ça que je suis à l'aise. Parce que sinon, j'ai une anticipation, je ne sais pas, une action qui m'intéresse pour des raisons fondamentales. Je sais qu'elle vaut 30, je sais que dans 2 ans, elle va à 100. Enfin, je sais, façon de parler. Mais voilà, donc j'ai envie de la voir, j'ai envie de la voir. Je suis très tenté d'appuyer sur le bouton achat. Mais en même temps, techniquement, je vois qu'il y a la place pour retracer à 22, 23. La vraie force, c'est de se contenir. C'est pas de se jeter dessus à 30 et après, du coup, techniquement, elle revient à 25 et là, est-ce qu'on va pouvoir le supporter? Mais si de 30, elle était partie en ligne droite, eh bien, du coup, l'opportunité est manquée, eh bien, c'est pas grave. La vie des titres, elle continue. Donc, voilà, ça m'a fait manquer pas mal de choses. Mais pour me sentir à l'aise, confortable, évacuer certaines émotions négatives liées au fait d'avoir une position ouverte. Voilà ma réponse.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Du coup, puisque c'est toi qui parles des retracements, je vais pousser un petit peu sur ce thème parce que c'est très difficile, je pense, pour les traders de développer des habitudes. Imagine effectivement que tu as un actif qui t'emballe et que tu décides de tirer profit d'un retracement pour rentrer. À partir de quand considères-tu que le retracement est allé trop loin? Et que c'est sans doute une inversion de tendance ou une latéralisation qui est en place davantage qu'une un retracement avant de repartir dans le sens de la tendance que tu recherchais.
Alors là, pour le coup, il y a plusieurs approches qui permettent de répondre. Déjà, moi, je ne sais jamais à l'avance quel retracement va permettre de bien entrer. En fait, tu le sais comme moi, c'est le fait de combiner plusieurs outils. Donc, si une grosse ligne de tendance haussière chartiste ou une énorme moyenne mobile passe vers le 50% de retracement, ce sera probablement plus le 50 que le 38,2 qui va fonctionner si là, je prends les retracements de Fibonacci. Alors, ensuite, je vais te donner simplement une réponse académique. Ce que l'on dit, ce que l'on admet, c'est que un retracement qui irait au-delà du fameux 61-8 de Fibonacci, c'est que la tendance n'a plus cours, en tout cas qu'on revient à la case départ. Alors, il y aura peut-être après un double bottom, je ne sais pas, mais c'est vraiment la barrière en dessous duquel il ne faut pas aller. Dans des vraies tendances fortes, de toute façon, entre 38,2 et 50, l'affaire est pliée, c'est là où on rentre. Déjà, si on commence à basculer en dessous, c'est que ça commence à faiblir. Alors après, d'autres outils peuvent permettre d'affiner, mais un vrai marché haussier avec encore du potentiel et des forces de rappel à l'achat, honnêtement, même parfois, le 23,6 suffit. Donc voilà, entre 38,2 et 50, c'est là où il faut commencer à s'intéresser. C'est pour moi la zone idéale. Et puis si tu regardes les vagues d'Elliott, par exemple, si tu regardes l'approche en vague d'Elliott, même le basique Elliott, c'est pire, mais les vagues d'Elliott standard, tu as des règles bien précises de retracement entre les vagues. Les vagues, je prends la vague 2 ou la vague 4 par rapport à la 1 et à la 3, avec des ratios. Et donc, ce n'est pas chaque fois le même ratio qui fonctionne, mais effectivement, il y a des probabilités plus avantageuses sur certains ratios. Donc, je dirais que là, si un auditeur s'intéresse à cet aspect retracement et cherche des règles un peu, quelque chose de normé, quelque chose d'un peu scolaire, je pense qu'il n'y a pas mieux que la théorie des vagues d'Elliott pour essayer de fixer des règles à l'avance. Je vois pas d'autre approche qui pourra dire que tel ou tel retracement est meilleur qu'un autre.
Merci Vincent. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Tu as abordé le fait que dans ton trading de crypto, en fait, c'est du hold. Hein. C'est tu crois fondamentalement. Et du coup, est-ce que tu penses que pour trader les cryptos en utilisant le bagage d'analyse technique traditionnelle, est-ce que tu penses qu'il faut adapter ça au monde des cryptos ou est-ce qu'on trade une crypto exactement de la même manière qu'un autre actif?
Alors voilà ma réponse. Moi, j'ai découvert les cryptos par l'analyse graphique il y a quelques années. Le monde a maintenant changé, les institutionnels sont là, le volume est énorme. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'institutionnels sur le marché des cryptos, il n'y avait rien. Désormais, il y a énormément de volume négocié sur les contrats à terme crypto, sur les contrats d'options crypto. On voit des entreprises qui utilisent leur trésorerie pour des investissements crypto. On a vu avec Tesla, mais pas que. Des grands fonds, BlackRock, Morgan Stanley et d'autres, ont rendu récemment éligibles les contrats à terme Bitcoin, Ethereum, dans certains de leurs fonds. Bref, l'arrivée du volume, qui est une partie importante de l'analyse technique, cette augmentation du volume a rendu et rend maintenant très pertinente et très efficace l'analyse technique sur les cryptos. Alors, sur les majeurs, surtout là où il y a le plus de volume, l'analyse technique sur le cours du Bitcoin, elle est très précise, elle fonctionne très bien, et là, pourtant, il n'y a vraiment pas de sujet. Donc, on peut pratiquer l'analyse graphique sur les cryptos comme sur n'importe quelle classe d'actifs. Et je dirais même, peut-être même un peu plus que sur d'autres classes d'actifs, parce que comprendre les fondamentaux des cryptos, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux des entreprises. C'est très compliqué. Là, ça demande du temps. Il faut s'y mettre. Et c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Donc, elle est presque, je dirais, incontournable, l'analyse technique sur les cryptos. Alors après, il y a tellement de jetons, tellement de tokens, tellement de projets, qu'il faut faire attention, moins il y a de volume, plus c'est petit, moins l'analyse graphique forcément va fonctionner parce que il n'y a pas assez de monde. Donc elle est très efficace sur les majeurs, sur le top 10. Très efficace.
D'accord, c'est parfait que tu le dises. Et encore une fois, tu es intervenant régulier chez BFM TV sur ce thème-là, donc forcément ça a plus de poids que si c'était...
Alors moi, je dirais pour continuer de répondre à ta question... Moi, je fais pas de trading ou de day trading crypto. Tu as bien compris, je fais du hold. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est hyper volatile. Je regardais récemment, j'avais fait un point justement pour une émission BFM sur les statistiques du risque des cryptos. Alors bon, là, les fans de crypto vont m'en vouloir, mais c'est un fait. C'est hyper volatile, des statistiques de drawdown qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est incomparable avec l'or, incomparable avec le marché d'échange, incomparable avec le marché action, c'est un marché très jeune, qui commence à s'institutionnaliser. À mesure que le volume va augmenter, ces statistiques du risque vont baisser. Alors c'est très rentable, oui, on met en face des énormes rentabilités, c'est vrai, mais c'est aussi très très risqué, même en bull run, même en marché haussier, ça peut faire un drawdown de 35 ou 40%. C'est pas tout le monde qui peut encaisser ça, surtout si on y va avec un effet de levier. Donc moi, mon conseil, entre guillemets, du trading crypto, c'est du hold, et c'est surtout sans levier. Sans levier direct, en spot, au comptant, sans passer par le CFD ou que sais-je, c'est sans levier. Sinon, franchement, ça me paraît compliqué pour le capital engagé. Enfin, voilà, c'est mon approche personnelle, chacun son point de vue.
Mais tu as tout à fait raison d'insister sur ça. Et du coup, si on s'en tient à l'analyse technique chartiste pure, okay, qu'on ne tient pas compte de toutes les connaissances qu'il y a sur les projets crypto en question, token, ou quels sont pour toi les 2-3 cryptos les plus prometteuses simplement en analyse technique?
Alors là, franchement, c'est compliqué de répondre parce que ça fait plusieurs semaines qu'on est en bull run. Beaucoup de tokens sont déjà assez hauts, je dirais autour de la vague 4. Voilà mon point de vue pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a toujours des nouveaux tokens qui arrivent, des nouveaux projets. Lorsqu'un nouveau projet arrive via la blockchain, dans la plupart du temps, ils vont émettre leurs propres tokens. Alors, pour un certain nombre de raisons, parce que l'utilisation peut être variée. Moi, je dirais qu'il faut s'intéresser déjà, là où il y a un énorme potentiel, aux jetons de la finance décentralisée. Je vais pas en citer en particulier parce que voilà, on va me reprocher après d'en favoriser un par rapport à un autre. C'est communauté cryptographique est très sensible sur ce sujet. Il y a des fans, il y a des groupes, il y a des clans. Mais la finance décentralisée a un énorme potentiel. Pour la plupart déjà des jetons sont envolés ces dernières semaines, mais ce n'est que le début. Il y a beaucoup de projets intéressants, concrets, qui deviennent concrets. Là, il faut au moins choisir un à l'intérieur. Alors, on l'a vu récemment aussi sur le marché de l'art digital, via la blockchain, les fameux NFT. Ça, c'est le tout début. Et c'est une réalité, le marché de l'art digital. Je connais, par exemple, prenez l'entreprise ArtPrice, alors qui est connu pour son marché de l'art de cotation, dans le concret, nous disait dans son récent rapport, justement, que je disais ce matin, que la partie de l'art digital, l'art avec un grand A, s'est envolée. Eh bien, il y a des crypto-monnaies qui représentent ça, qui sont les jetons de cet art digital. Donc là aussi, il faut en choisir un, et il y en a beaucoup qui se sont envolés, depuis le début de l'année. Alors ensuite, plus globalement, le vrai débat, c'est Bitcoin et Ethereum. Bitcoin reste le leader incontournable et je pense que ça va durer. Si je devais donner un conseil, je pense qu'Ethereum va continuer de gagner en poids au sein de la dominance cryptographique, au sein du poids en termes de capitalisation boursière. Je pense que petit à petit, à mesure que les années vont passer, on va assister à un rééquilibrage Bitcoin-Ethereum. Donc, Ethereum, si je devais parmi les majeurs en citer un maintenant, sachant que tout a déjà énormément monté, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel d'un point de vue relatif, hein, relativement au BTC, du côté d'Ethereum.
Super, merci beaucoup Vincent. Écoute Vincent, j'ai une nouvelle question de quelqu'un que tu connais bien. Cette fois-ci, c'est Nicolas Chéron qui a voulu te poser une question. Nicolas Chéron, alors vous avez beaucoup de choses en commun, notamment le fait que vous avez occupé, vous êtes passé par Zone Bourse, vous êtes passé par d'autres institutions. Alors la question est la suivante. Ok, il me dit clairement, il me dit, demande-lui d'expliquer le système de fake breakout de la boîte. Il avait bien fait ça chez IFXM. Ah. Donc en gros, apparemment, tu l'as impressionné pour un des pires écueils qu'il y a encore une fois. Bon, ça se backtest tout ça, mais la fameuse fausse cassure. Et toi, tu l'as en fait théorisé à ta manière. Est-ce que tu peux aider à comprendre comment, bah déjà, ce que c'est qu'un faux breakout et comment s'en prémunir?
Oui, donc ça, ça serait effectivement plus simple de le faire à l'aide d'un graphique, mais on va essayer d'imaginer. On va essayer d'imaginer. Alors, je ne sais pas si j'ai théorisé ça, en tout cas, mais c'est quelque chose d'important en analyse technique. Beaucoup de détracteurs de l'analyse technique disent que, déjà, alors, pour certains, c'est de la sorcellerie, mais d'autres disent que, bah, regarde, ça marche pas. Là, on vient de dépasser ta résistance et finalement, on rebaisse l'analyse technique, ça marche pas. Moi, ce que je leur dis, c'est que l'analyse technique, c'est avant tout des probabilités. C'est pas parce que on dépasse une résistance et qu'on la réintègre, ou casse un support qu'on la réintègre, que l'analyse technique marche pas. Non, ça fait partie de l'analyse technique. Les pièges techniques font partie de l'analyse technique. Mais comme l'analyse économique ou l'analyse fondamentale se trompe. Et je vais même plus loin que ça. Le piège technique est un signal de trading en soi. Car imaginez une tendance baissière, ça fait un an qu'on baisse. On arrive sur un gros support majeur. On pense qu'il va tenir, on veut l'acheter, finalement, on le casse. Alors on se dit, mince, c'était pas le bon point d'entrée. On le casse et deux jours plus tard, on le réintègre. On le réintègre. Et bien ça, c'est l'indication qu'en fait, si c'est le bottom, c'est le point bas. C'était l'ultime piège en dessous de ce niveau, mais le fait de le réintégrer nous confirme que c'était le bon support. Donc moi, je dis non seulement que ces pièges techniques, ces fausses cassures, ne décrédibilise pas l'analyse technique, mais même, je vais au-delà de ça, ça donne même en l'état un signal de trading, c'est même au fond un pattern graphique, c'est même une configuration graphique. Tu sais, un exemple, en tendance haussière, le marché monte et puis imaginons qu'il fasse un triangle, il en sort par le haut, on se dit figure de continuation, et le lendemain, il le réintègre. Et bien là, on a des normes, on sait que dans ce cas, si on réintègre la pattern, on peut revenir dans le bas. De cette pattern. Donc voilà, le faux signal, le piège technique, le bull trap ou le bear trap ne décrédibilisent pas l'analyse technique et même au contraire font partie des configurations graphiques et même peuvent donner des signaux de trading. Donc voilà comment je vois les choses. Alors pour certains sont pas d'accord, mais je vois les choses de cette façon-là.
Non, mais c'est quand même très clair. Alors, juste pour que ce soit sans ambiguïté pour ceux qui nous écoutent. Donc, on reprend l'exemple que tu as donné. On a un support. On va dire que globalement, le support, je dis n'importe quoi, il est entre 21 et 20. OK ? C'est là où l'attendent la plupart des analyses techniques. Et on clôture en dessous de ce support. On a l'impression qu'il a été cassé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que... Finalement, c'était une fausse cassure de support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans la zone 20-21? Ça veut dire clôturer à nouveau au-dessus de 20-21? Qu'est-ce que c'est pour toi invalider ou plutôt, qu'est-ce que c'est qu'une fausse cassure?
La fausse cassure du range 20-21 dans le cas d'une tendance baissière.
Voilà, c'était notre support. On va dire que ça vient de 25, par exemple. Ça tombe comme une masse. On a une zone de support à 20-21. Et on clôture, par exemple, à 19,5. OK ? Franche cassure. À partir de quel moment tu considères que, finalement, c'était une fausse cassure et que, finalement, le support est tout à fait valable et qu'on est apparemment reparti pour rebondir ?
Alors, à partir du moment où la séance de cassure est effacée, imaginez donc cette tendance baissière que tu décris, et on sort par le bas de ce range 20-21 avec un gros chandelier rouge qui le casse. Ce chandelier, il a une forme physique, il a une hauteur, une amplitude, un cours d'ouverture, un cours de clôture, on peut l'imaginer visuellement. Pour moi, le signal de réintégration, c'est lorsqu'on l'englobe, c'est lorsqu'on l'efface. Si le lendemain ou deux jours plus tard, on a au contraire un gros chandelier vert qui l'efface, qui prend sa place, qui occupe le même espace en termes d'amplitude et qui nous remet dans le range 20-21. Dans ce cas, parce que si c'est vraiment une bougie de cassure de continuation baissière, jamais on ne doit revoir le point haut de cette bougie de cassure baissière. Et si on a une bougie qui, au contraire, vient le reprendre, et donc venir occuper son espace à sa place, je ne sais pas si je suis bien clair, pour moi, c'est là le signal que c'est un piège technique. Et du coup, là, il faut chercher des achats. On revient dans la pattern et on peut même remonter dans le haut du range.
Et du coup, puisqu'on parle de support, de quel type de stop loss es-tu fervent toi-même? Est-ce que c'est un stop loss au feeling? Est-ce que c'est un stop loss fixe? Est-ce que c'est un ATR? Est-ce que c'est une bougie? Enfin, comment tu places tes stop loss en général?
Alors déjà par défaut, je place un stop loss parce qu'on ne sait jamais. Trou d'air, trou de liquidité, on ne sait jamais. gros décalage, ce serait dommage de se retrouver à moins 10 alors qu'on pouvait, on voulait pas accepter plus de moins 1 ou moins 2. Là, par défaut, j'en place un. Alors après, effectivement, je le passe d'abord pour des, ce sont des considérations techniques, et aussi financières, mais c'est pour moi l'intérêt de soigner son timing et d'attendre vraiment le point parfait, c'est qu'on peut placer le stop loss en respectant à la fois un stop financier, on ne va pas perdre plus de temps par trade, et un stop technique. Ensuite, il évoluera en fonction de la tendance. Après, moi, concrètement, c'est vrai qu'en général, je vais sortir avant. Imaginons que le trade soit gagnant, je remonte le stop à la main. Donc, pas de stop suiveur préprogrammé, j'ai pas trop confiance dans ce genre de choses. Je fais pas de trading algorithmique. Alors, si j'utilise des algos, ça peut pour me donner des signaux, mais j'aime quand même accompagner ça à la main. De toute façon, mon horizon de temps de trading me le permet. Hein. C'est pas du day trading, c'est du swing trading, voire même du moyen terme. J'ai donc pas de stress par rapport à ça. Je suis pas obligé de coller à l'écran en permanence. Ça, c'est le vrai confort de l'horizon de temps que je pratique. Donc voilà, je le gère à la main. C'était, je pense, ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Si, si, sur l'esprit, tu as totalement répondu. Et techniquement, ça veut dire que tu n'as pas de règles. Ça peut être une clôture en dessous d'un support ou d'une moyenne mobile, enfin que tu n'utilises pas, mais en dessous de. Tu n'as pas de règles strictes pour établir tes stop loss. Tu sais simplement que tu en as un.
Bah. Alors, disons que c'est le stop loss, il faut le placer en fonction de là où son signal, son analyse est invalidé. Ce qui me donne le point de départ, l'envie d'entrer dans mon trade. Il faut aussi tenir compte aussi de la chasse au stop. Ça, c'est tellement fréquent. Les points trop parfaits, justement, tout le monde les voit. Les instituts, de toute façon, ils voient même les paquets de stop. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. D'où l'intérêt vraiment de soigner son timing. Parce que si on met son stop pile poil sous le point parfait, souvent, ça va chasser. Donc, il faut aussi tenir compte de... Il y a plusieurs aspects comme ça qu'il faut appréhender.
D'accord. Alors, ça fait deux fois que tu en parles et tu as raison parce que c'est très important, le timing, quand on entre en position. À partir de quand... Imaginons que tu veuilles acheter sur un... Est-ce que tu es plutôt achat sur cassure de résistance ou plutôt achat sur support?
Alors, en tendance haussière sur support. Je déteste les breakouts, même si parfois, c'est, effectivement, ça peut partir. C'est compliqué de gérer son risque. Quitte à manquer des trades, j'aime les pullbacks, j'aime les retracements, donc ça fait peu de... moins d'opportunités, mais voilà ma réponse.
Je comprends très bien. Donc... à partir de quand tu considères qu'un pullback ou qu'un retour sur résistance cassée, pour le coup, hein, qui change de polarité, à partir de quand tu considères que c'est bon, tu peux engager le trade, le support a l'air de tenir et le rebond a l'air de se faire?
Alors idéalement, c'est lorsqu'on travaille ce support, hein, des petites mèches dessus, des éléments comme ça, une vraie réaction en fait, une vraie réaction sans divergence. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est important. Il y a tout le cadre aussi, le contexte dont il faut tenir compte. Mais pour moi, c'est ça. C'est un support sur lequel on vient se poser. On peut y rester, c'est pas grave. Même limite, ça peut être mieux quelques jours. Mais on démontre que il y a des acheteurs qui s'y présentent. Voilà, plutôt une façon de se positionner comme ça. Je sais pas si ma réponse est très claire, mais
non, c'est très clair.
C'est difficile de mettre en voie.
Non, c'est très très clair. Écoute, c'était très intéressant, Vincent. Ça fait plus d'une heure maintenant. Je pense que je vais te laisser tranquille. Je compte bien te réinviter si tu veux bien.
Franchement, j'étais ravi de. C'était une agréable conversation. Merci à toi, cher Trado.
Mais écoute, franchement, les auditeurs ont appris plein de choses et pas simplement de la théorie, beaucoup de choses très concrètes. C'est exactement à l'image de ce que j'attendais. Encore merci Vincent. Tu nous dis où on te retrouve?
Alors, où me retrouver? Eh bien, là aussi, c'est ta dernière question. Il faut une réponse. Eh bien, allez.
Non, tu peux dire. C'est la seule question pour laquelle tu peux donner toutes les réponses que tu veux. Comment on fait pour te retrouver et te suivre?
Alors, bah, écoutez, Twitter, ça reste quand même le réseau social, ou peut-être YouTube. Maintenant, c'est vrai que je suis présent sur YouTube, mais à droite, à gauche. Allez, on va dire que Twitter, c'est là où je synthétise une partie de ce que je fais. Voilà.
Ok, c'est quoi ton Twitter?
Alors, bah, @VincentGann, et puis bah, naturellement aussi pour... puisque c'est, je représente aussi, comme tu le sais, TradingView en France, je suis aussi très présent sur TradingView et j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs pour eux. C'est là où je fais des vidéos chaque matin. C'est aussi une façon de me retrouver chaque matin.
Encore merci Vincent.